Méridienne.
Allez, elle est arrivée avec son livre et plein de petites notes pour la rubrique Nuances du monde du jour. C'est Emma, bonjour.
Salut Mathieu.
Ça va bien, en forme?
Ouais, très bien, et toi?
Eh ben oui, super bien. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui?
Eh bien, jusqu'ici, j'avais plutôt présenté des romans contemporains. Du coup, cette fois-ci, je vais remonter un petit peu, jusqu'au 19e siècle, avec Le Chevalier des Touches de Jules Barbet d'Aurevilly. Un roman alors semi-historique, hein, puisque voilà, c'est tiré d'une histoire bien réelle, mais c'est quand même romancé. Au thème original, puisque les héros sont des chouans. Est-ce que tu sais, Mathieu, ce que c'est qu'un chouan?
Non, je ne sais pas ce que c'est, mais le nom est rigolo.
Eh bien oui, et ben des chouans, en fait, ce sont, figure-toi, des contre-révolutionnaires royalistes. Alors, dans notre histoire, ce sont des nobles, mais il y avait aussi des paysans qui faisaient partie de la chouannerie. Et alors, on les appelle comme ça parce que leur cri de ralliement, c'est un cri de chat huant.
Okay.
Voilà, hein, un cri de chouette bizarre. Voilà, ouais. Le tout premier chef des chouans, il faisait ce cri-là de ralliement et c'est resté. On a contracté du coup cela en chouan.
Okay.
Et donc, eh ben, dans la littérature, les chouans sont plutôt ceux qui ont le mauvais rôle, hein. Et ça se conçoit parce que, en tout cas, les nobles qui sont des contre-révolutionnaires, ils veulent garder leurs privilèges. Mm. Alors du coup, ben, pourquoi je fais une chronique sur un roman qui met à l'honneur les chouans? Et bien tout simplement parce que c'est magnifiquement écrit et que la littérature, c'est avant tout la beauté d'un texte. Alors j'y arrive au texte, justement. Déjà avec le titre du chapitre, vous allez voir, je vous en donnerai un autre. Ils sont assez savoureux, hein, les titres de chapitre. Celui-ci s'appelle « Trois siècles dans un petit coin ».
Okay.
Et ça commence comme ça. C'était vers les dernières années de la Restauration. La demie de 8 heures, comme on dit dans l'Ouest, venait de sonner au clocher, pointue comme une aiguille et vitrée comme une lanterne, de l'aristocratique petite ville de Valognes. Le bruit de 2 sabots traînants, que la terreur ou le mauvais temps semblait hâter dans leur marche mal assurée, troublait seul le silence de la place des Capucins. Et un peu plus loin. Mais comme s'il avait fallu davantage, voici qu'un fait étrange. Dans cette petite ville où, à pareille heure, les mendiants dormaient bien accoquinés dans leur paille, et où les voleurs de rue, les gentilshommes de grand chemin, étaient à peu près inconnus, oui, un fait extraordinaire vint à se produire tout à coup. Dans la rue Siquet, de la rue Siquet, au milieu de la place des Capucins, la lanterne qui projetait sa pointe de lumière sous le parapluie incliné s'éteignit, juste en face du grand Christ. Et ce n'était pas le vent qui l'avait soufflé, mais une haleine. Les nerfs d'acier qui tenaient cette lanterne l'avaient élevée jusqu'à la hauteur de quelque chose d'horrible qui avait parlé. Oh, ça n'avait pas été long. Un instant, un éclair. Mais il est des instants dans lesquels il tiendrait des siècles. C'est à ce moment-là que les chiens avaient hurlé. Ils hurlaient encore quand une petite sonnette tinta à la première porte de la rue des Carmélites, qui est à l'extrémité de la place. Et quand la personne au sabot entra, mais sans sabot, dans le salon des demoiselles de Touffe de Lys, qui l'attendaient pour leur causerie du soir. Elle, ou plutôt il, car c'était un homme, était chaussée avec l'élégance d'un abbé de l'Ancien Régime, comme on disait beaucoup alors. Et d'ailleurs, quoi d'étonnant, puisque c'en était un. Alors, qu'est-ce qui a pu causer une telle frayeur à cet abbé? Eh bien, justement, c'est le personnage éponyme, le Chevalier des Touches. Et à partir de ce moment-là, va démarrer ce qu'on appelle un récit enchâssé. Alors, un récit enchâssé, c'est quand on va démarrer une première histoire, c'est le récit cadre, et puis, avec un premier narrateur qui raconte, hein, et puis un second narrateur va prendre le relais pour raconter une autre histoire qui a en général un lien avec la première. Tu vois par exemple Mathieu, les contes des mille et une nuits, Scheherazade, hein, qui raconte une histoire à chaque fois. Bah voilà, c'est ce principe-là de récit enchâssé.
Okay.
Et ici, c'est la sœur de l'abbé, qui s'appelle Barbe de Percy, qui va devenir ce second narrateur et qui va rappeler à tout ce petit monde l'histoire du Chevalier des Touches. Alors tout ce petit monde, qui est-ce? Eh bien, ce sont des vieux nobles qui font salon chez les demoiselles Touffe de Lys. Vous noterez l'automastique, hein, le Lys, c'est le symbole de la noblesse.
Ouais.
Donc, ces gens qui font salon, on est donc dans les dernières années de la Restauration, 1830. On a donc ces demoiselles Touffe de Lys, l'abbé de Percy, sa sœur Barbe, le baron de Fierdras, et un personnage sur lequel nous allons nous arrêter un peu, Aimé de Spence, dont je vais vous lire le magnifique portrait, qui se trouve dans le chapitre 3, encore un titre, je trouve, très savoureux, « Une jeune vieille au milieu de véritables vieillards ». On nous dit, Aimé de Spence avait perdu son fiancé au moment où, devenue pauvre par le fait de la spoliation révolutionnaire, elle cousait elle-même sa modeste robe de noces de ses mains féodales. Et même on ajoutait tout bas qu'elle avait fait de cette robe inachevée et inutile le suaire de son malheureux fiancé. Depuis ce temps-là, et il y avait longtemps, le monde intime au sein duquel elle vivait l'appelait souvent la Vierge Veuve. Et ce nom exprimait bien, dans ses deux nuances, sa destinée. Comme il faut avoir vu les choses pour les peindre ressemblantes, le groupe de vieillards qui l'entourait et qu'il avait vu en pleine jeunesse donnera peut-être en parlant d'elle dans cette histoire une idée de sa beauté passée. Mais il paraît que cette beauté avait été surnaturelle. Lorsque le vent de la poésie romantique soufflait dans la tête classique de l'abbé de Percy, qui était poète, mais qui tournait ses vers au tour en l'air de Jacques Delisle, il disait, sans trop croire tomber dans le galimatia moderne, « Ce fut longtemps l'astre du jour, mais c'est l'astre des nuits encore. » Et quelle que fût la valeur métaphorique de ces deux vers, il ne manquait pas de justesse. En effet, aimer, la belle aimée, était une puissance métamorphosée, mais non détruite. Tout ce qui avait été splendide en elle autrefois, tout ce qui foudroyait les yeux et les cœurs, était devenu à son déclin doux, touchant, désarmé, mais suavement invincible. Sidéral d'éclat, sa beauté en mûrissant s'était amortie. Comme les rayons de la lune, elle s'était veloutée. Alors, chose étrange, il se trouve que cette jeune femme, dont on voit qu'elle a l'air très, très bien sous tout rapport, eh bien, en présence du chevalier des Touches, elle rougit. Ce qui avait fait craindre à un moment à Mademoiselle de Percy qu'elle ne l'aimât. Et pourtant non, son fiancé, celui qui est mort, s'appelle Monsieur Jacques. C'est un ami du fameux chevalier. Et ce Monsieur Jacques, si on remonte en 1799, au moment où la contre-révolution est bien en place, eh bien il est comme tous les chouans estomaqués d'apprendre ce qui va constituer finalement l'élément déclencheur du cœur de notre récit. Barbe de Percy nous dit « C'était dans les environs d'Avranches que des Touches avaient été enveloppées et saisies par une troupe tout entière. On disait tout un bataillon. Et en effet, il fallait bien tout ça pour capturer des Touches, qui est considéré comme l'un des chouans les plus vaillants parce qu'il traversait régulièrement la Manche, alors sur un rafio littéralement, pour porter du courrier, je cite, de Normandie en Angleterre et d'Angleterre en Normandie. On dit de lui qu'il a une force surhumaine, avec pourtant une taille fluette. » qui en fait un personnage atypique. Comme on atteste ses surnoms, on l'appelle la guêpe, pour sa taille de guêpe, la belle Hélène, car il a une beauté incroyable, mais associée à des traits fins et presque féminins. Ou encore le farfadet, pour sa capacité magique à dompter les flots, puisque traverser la Manche plusieurs fois par mois, c'était un peu périlleux. Et ainsi, une foule de chouans se précipite au château de Touffe-de-Lys et déclare qu'il faut délivrer des Touches ou périr. Ça vous donne une idée de l'importance du personnage.
Ouais.
Alors pourquoi le château des Touffe-de-Lys ? Eh bien parce que c'est un des lieux de réunion secrète des contre-révolutionnaires. Barbe nous dit encore, nous avions transformé ce vieux château démantelé, sans pont-levis et sans herse, qui n'était plus depuis longtemps un château fort, mais qui était encore une noble demeure, en un château humilié et paisible, auquel la révolution pouvait pardonner. Et là, le « nous » désigne les femmes, les deux sœurs, Sainte et Ursule Touffe-de-Lys et Barbe de Percy. Une preuve que, déjà, s'il n'en fallait pas encore, déjà pendant la Révolution, les femmes étaient actives et malines. Je fais une petite dédicace aux chroniques de Geneviève au passage. Il est donc décidé qu'une expédition de 12 chouans irait délivrer des Touches à la prison d'Avranches, avec un passage épique, alors que je ne vais pas vous lire parce que c'était trop long, où nos héros déclenchent une bataille à la fois attenante à la prison pour détourner l'attention des Bleus. Les Bleus sont les révolutionnaires, et pendant ce temps, un des leurs, Vinal Onis, doit se glisser dans la prison pour délivrer des Touches. Alors, il essaye d'embobiner la gardienne de prison, et puis ça fonctionne un petit peu, puis il tente de l'enivrer pour qu'elle le mène au chevalier, mais... il y a un mais. Mais cette femme, cette Auxon, nous dit-il plus tard à Touffe-de-Lys, était plus difficile à mettre en feu que la prison d'Avranches, qui y était 3 heures après. C'est que cette femme, Monsieur de Fierdras, avait dans le cœur ce qui empêche l'ivresse. L'ivresse qui, dit-on, ceux qui boivent, est un oubli, une illusion, une autre vie dans la vie. Elle avait un souvenir dans le cœur plus fort que l'ivresse, qui glaçait l'ivresse et que l'ivresse ne noyait pas. Et ce n'était pas, non, le souvenir du sang de Belzance, si réellement, comme on le disait, elle y avait goûté. Mais un souvenir a tué celui-là, à l'empêcher de penser même à ce crime si elle l'avait commis, d'en effacer le remords. C'était enfin dans le fond de son cœur une plaie si large que toute la mer changeait en eau de vie pour la faire boire à cette femme, dont l'âme entière n'était plus qu'un trou de blessure, y aurait passé comme dans un crible, sans rien engourdir et sans rien fermer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cette femme ? Et puis finalement, est-ce que le chevalier des touches va être délivré ?
Mmh.
Et puis aussi, mais pourquoi Aimée de Spence, elle rougit quand elle voit ce dernier ? Et au fait, mais est-ce que l'abbé l'a vraiment vu ce soir-là ? Et puis, qui est-ce qui nous raconte cette histoire ? Vous savez, le premier narrateur, celui du récit cadre, j'en ai pas parlé. Tu veux le savoir, Mathieu ?
Ben oui.
Et vous, les auditeurs, vous voulez le savoir ? Eh bien, je vous invite à lire Le Chevalier des Touches de Barbet d'Aurevilly.
Très bien. Et la narratrice du récit, elle s'appelle Enchassée. Barbe.
Elle s'appelle Barbe de Percy. Et elle est très masculine. Elle dit qu'elle est très laide, hein, que l'amour est pour les autres, pas pour elle. Les noms sont très parlants. Hein.
Ok. Comme Barbet, le nom de l'auteur.
Alors oui, et bien sûr, il y a un petit lien avec Barbet, bien entendu, avec Barbet d'Aurevilly.
D'accord. Bon, peut-être. Eh bien, roman à lire, oui, ça donne très envie. Merci beaucoup, Emma, d'être venue nous le présenter.
Merci, Mathieu.
À très bientôt.
À bientôt.
Calade. La Méridienne.